au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
Didier Lecoing, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes académicien Goncourt, académicien de marine et aussi écrivain de marine.
Oui.
En quoi ça consiste ?
Ben, il y a trois critères pour être écrivain de marine. L'un qui est évident, c'est d'être écrivain, c'est-à-dire d'écrire. Le deuxième, c'est de naviguer d'une manière ou d'une autre. Alors ça, c'est, on peut naviguer à la plaisance, on peut avoir été officier de marine, on peut avoir appartenu à la marmare. Du moment qu'on a eu une coque sous les pieds, voilà, c'est un monde. Et puis, le troisième critère, c'est d'avoir, comment dirais-je, des affinités électives avec notre marine nationale, c'est-à-dire de tout simplement d'aimer les bateaux gris, de faire connaître leur rôle, leur importance dans le dispositif stratégique et géopolitique, et puis de considérer que la marine, c'est beau, c'est porteur d'un tas de choses.
Bon, c'est pas nous qui allons dire le contraire.
Pas vous, en tout cas.
Non, pas moi, en tout cas. Mais les écrivains de marine, finalement, c'est un groupe, bon, je sais que c'est une association, et assez récent, contrairement aux peintres officiers de la marine qui, eux, sont nés vers 1830. Tandis que vous, les écrivains de marine, qui, donc, je le répète, n'est pas un corps, n'est pas un groupe, mais une association, on en reviendra peut-être tout à l'heure pour le décrire, est né en 2003 à l'initiative de Jean-François Deniaud.
Oui, moi, je me rappellerai toujours parce que ça a été quelque chose, bon, je connaissais un petit peu bien. Jean-François Deniaud, et c'était à peu près à la même époque, nous nous apprêtions, ma femme et moi, à partir au bord de la mer, dans notre petite maison de pêcheurs, le téléphone sonne, et vraiment j'avais pas de la route, il y avait des bouchons, c'était abominable, et j'ai dit réponds pas, et elle décroche quand même, et puis elle me dit c'est Jean-François Deniaud, je le prends, et me dit écoute, j'ai une idée, est-ce que tu aimerais être écrivain de marine? Qu'est-ce que ça existe? Il me dit non, justement, mais j'ai pensé qu'on pourrait le faire exister. On est 3-4, il a commencé à me raconter son projet, que ce serait un peu calqué sur les peintres officiels de la marine, etc. Et j'étais tout de suite emballé. Du coup, je me suis payé des embouteillages monstres au sortir de sur l'autoroute, mais j'emportais ce moment de bonheur. Et je me disais, est-ce qu'il va y arriver? Deux mois après, c'était fait.
Ah, de toute manière, avec lui, on sait que tout arrivait.
Donc... Oui, c'était à la fois un porte-avions, un sous-marin d'attaque. Ouais. Il était tout, Jean-François. Ouais. Une espèce de puissance de feu pacifique, s'entend. Puissance de feu tout à fait extraordinaire. Je crois qu'il n'y a plus d'homme comme ça qui dit « je veux ça » et ça se fait.
Oui, parce que l'histoire des écrivains de marine, avant, auparavant, la littérature et la marine ont quand même des liens déjà très étroits. Il suffit de citer simplement Loti, Farère et quelques autres, ou d'aller encore un petit peu plus loin auparavant. Mais jusqu'à présent, l'idée de créer un corps d'écrivains officiels de la marine n'était pas venue... Si, il y avait eu déjà des tentatives. Un certain nombre d'idées de la sorte avaient caressé un peu les esprits des états-majors. Et puis, pour des raisons diverses et variées, ce n'avait pas abouti jusqu'à ce que Jean-François Deniaud
décide. Alors, il faut dire d'abord que l'expression écrivain de marine existait déjà dans la marine, puisque l'écrivain de marine était d'une sorte de... C'est l'ancêtre des commissaires, je crois, hein, dans la marine. Enfin, dans la marine en bois, la marine de M. de Kerguelen et autres, l'écrivain de marine était un des personnages du bord qui tenait le
compte. C'est celui qui tenait les comptes, voilà. Qui tenait le journal, voilà. Parce que les officiers savaient lire et écrire, mais... pas toujours ou pas très bien d'ailleurs.
Voilà,
il fallait bien qu'il y ait un écrivain, qu'il y ait un porte-plume quelque part. Et puis soudain on arrive. Alors l'écrivain de marine, sa définition officielle, je vais peut-être vous la laisser la dire ou la lire.
Mais écoutez, elle est, oui, c'est celle qu'on a donnée. Elle dit tout. Hein. L'écrivain de marine, il est là pour servir la marine, ça on l'a dit, la marine avec un grand M, notre marine nationale, favoriser la propagation et la préservation de la culture et de l'héritage de la mer et plus généralement la promotion de la dimension maritime de la France. C'était parti un petit peu de cette réflexion boutade d'Éric Tabarly qui disait, vous savez, pour les Français, la mer, c'est ce qu'il y a derrière eux quand ils sont sur la plage. Voilà. Il y a effectivement, ça avait beaucoup frappé Jean-François Deniaud, notamment au moment de l'affaire, on peut parler de l'affaire du musée de la marine, quand il s'était dressé pour empêcher qu'on déplace le musée de la marine du Palais de Chaillot, il y a une méconnaissance de la mer et de la marine de la part des Français qui est étonnante quand on pense au nombre de kilomètres de côte. Enfin, je sors une banalité que tout le monde connaît, mais c'est bien de la répéter. Nous sommes une nation entourée par des mers, nous sommes une nation pour qui la mer est vitale, au moins autant que pour les Anglais, et nous avons peut-être non seulement une méconnaissance, mais une sorte d'indifférence par rapport à... Oui, la mer, c'est deux mois d'été.
La mer, c'est deux mois d'été, on y tourne le dos.
Oui, et regardez, quand on veut construire quelque part un port pour des bateaux de plaisance, et les gens se mettent à hurler en disant « quelle horreur, quelle horreur !» Il a fallu Tabarly, il a fallu les exploits de nos navigateurs au large, etc., pour qu'on commence à s'apercevoir que le français, il avait aussi de l'eau salée qui lui coulait dans les veines. Oui.
Et pourtant, le rôle des écrivains, donc de publier, de composer, de publier des ouvrages inspirés par la mer et la marine, je fais un petit peu un distinguo entre mer et marine, car la mer, c'est tout l'ensemble. La marine, c'est notre marine, c'est la royale. Donc, ils sont bien sûr intrinsèquement liés, mais vous êtes 20, je crois.
On est 20, oui.
On est 20. Et parmi les 20, vous avez deux officiers de marine. Et un ancien matelot.
Oui, c'est Giraudot, l'ancien
matelot. C'est Giraudot, l'ancien matelot. Et qui est maintenant... Alors, ce qui est intéressant, je cite Giraudot, qui lui est ravi, parce que l'ancien quartier-maître, depuis qu'il est écrivain de marine, il la rend, rend et appellation, parce qu'il n'a pas le grade, il la rend et appellation de capitaine de frégate.
Oui. Et alors, il bénéficie d'un logement, évidemment, qui n'a rien à voir, ce qu'il disait, avec la bonne... qu'il occupait à bord des bateaux. Je crois que ça a été un des plus heureux d'être appelé parmi les écrivains de marine. Mais vous avez raison, il y a un distinguo à faire entre mer et marine. Cela dit, je crois que notre rôle est d'abord de parler vraiment de la mer, hein, essentiellement, de la ramener dans la mémoire des gens. Parce que l'histoire de la France maritime n'a pas commencé avec Colbert.
Non, bien avant.
Bien avant.
Mais les gens, on a quand même Jean de Vienne, premier amiral.
Et puis, alors c'est vrai que le Gaulois n'était peut-être pas foncièrement navigateur, mais je suis sûr que si on remonte, on va trouver des...
D'où descendons des Normands.
On descend des Normands, et puis on a un réseau hydrographique, enfin des fleuves en France. Et ça fait aussi partie, si vous voulez, peut-être pas de l'écrivain de mer, mais de l'écrivain de marine, parler aussi de la navigation fluviale. Nous, c'est toutes les marines que nous essayons d'englober.
Alors, est-ce que ça vous oblige, vous, écrivain, à n'avoir que des sujets inspirés par la mer?
Pas du tout. Je crois d'ailleurs, moi, n'avoir jamais écrit un livre entièrement consacré à la mer, mais c'est vrai que depuis mon premier roman, ça date il y a longtemps, il y a toujours un bateau qui vient se glisser dans mes pages. Et c'est une espèce de gimmick, de porte-bonheur, je ne sais pas écrire. Le plus terrien de mes livres, vous trouverez toujours un navire à un moment ou l'autre. Ça peut être une barque en bois, une barque de pêcheur, il y a toujours un bateau. Et maintenant que je suis écrivain de marine, je me suis donné à moi-même l'engagement d'écrire un jour un livre qui soit purement et spécifiquement maritime.
Parce que vous n'avez pas signé un contrat avec la Royale, la Marine Nationale, pour tant d'ouvrages consacrés à la marine. Vous avez une liberté?
On a une totale. Alors, oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les peintres officiels de la marine, ils ont la chance de pouvoir tout de suite, j'allais dire, manifester, pas leur appartenance, mais leur connivence, leur affinité avec la marine. On fait un tableau, c'est facile. Nous, un roman, c'est long à écrire, si on veut écrire un roman. Ça peut prendre des années. Et puis, il faut avoir l'idée, les personnages, etc. Donc, on est un petit peu en manque, comment dirais-je, d'expression par rapport à notre titre d'écrivain de marine. Comment on va le manifester? Comment le dire? Moi, je me suis demandé si, par hasard, on ne pourrait pas essayer que chacun des écrivains prenne un bateau qui a existé, qui existe, et on retrace l'histoire. Je vais prendre un exemple concret. En 2010, la Jeanne d'Arc, notre merveilleux navire école, va être désarmé. Moi, je viens de naviguer sur la Jeanne, j'ai fait 17 jours dans l'océan Indien inoubliable, et ça me tord le cœur de penser que ce bateau va disparaître. Et je demandais au commandant, est-ce qu'il y a une histoire de la Jeanne d'Arc? Un livre pour elle-même spécifiquement, me dit non.
Non, il y a 3-4 albums.
Voilà, il y a des albums de mission.
Qui ne sont pas la véritable histoire.
Qui ne sont pas l'histoire depuis le moment où on a posé le premier boulon jusqu'à ce triste jour de 2010 qui arrivera. Ouais. Bon. Et je disais, ce serait peut-être pas mal qu'un écrivain s'empare, j'allais dire, de l'histoire de la Jeanne, mais on peut le faire pour le Duguay-Trouin, pour des navires qui ont été désarmés ou qui sont encore à la mer. Certains n'ont pas d'histoire, certains sont des navires, mon Dieu, il n'y a pas grand-chose à raconter dessus, mais d'autres ont des histoires. personnages, je pense surtout les frégates de lutte anti-sous-marine, les sous-marins.
Voilà. Vous savez qu'on retrouve un peu ce genre de choses à travers des romans que j'ai lus à une certaine époque. Il y a au moins 4 ou 5 signes de piste qui sont inspirés par la marine. Il y a le fameux film qui a donné un roman ensuite de Vercors, Le Grand Pavois.
Oui.
Jeanne
d'Arc d'ailleurs.
Non,
c'est pas celui-là.
C'est une Jeanne d'Arc antérieure.
Ouais, c'est une Jeanne d'Arc antérieure.
Vous avez un certain nombre d'ouvrages comme cela qui racontent l'ambiance marine, pas sur un bâtiment, sur l'ambiance marine, comme des films Alerte en Méditerranée. Et vous avez tous ces éléments-là qui sont peut-être aussi rassemblés comme une sorte d'anthologie. Vous avez aussi l'éventualité, mais je me permets peut-être de le suggérer, des reportages, des chroniques, un peu comme l'a fait d'ailleurs Giraudot en publiant son passage sur la Jeanne.
Mais il faut avoir le support qui soit en aval de la mission qu'on peut faire. Si vous sortez descendez d'un bateau, il faut qu'il y ait un journal qui accueille la chronique que vous allez donner. Et puis je pense aussi que l'écrivain de marine ne doit pas se limiter à de l'écriture textuelle. Il y a des scénarios à faire aussi. Il y a peut-être des films pour la télévision. Il y a des tas de choses. Et puis il y a la parole. Il y a les conférences, il y a les rencontres. Et puis j'allais dire qu'il y a aussi ce que disait Jean-François Deniau, il y a le fait d'exister. Le fait d'être un signe visible.
Alors justement, un signe visible, bien sûr, c'est une activité purement bénévole, complètement. Hein. Mais que vous donne la marine ?
La marine nous fait un privilège, qui est celui de pouvoir porter un uniforme d'officier de marine.
Et sans galon.
Sans galon, bien sûr. Mais sinon, avec les mêmes boutons dorés.
Oui.
Un privilège qui a été très, très apprécié des premiers écrivains de marine qui ont été nommés. On a un insigne si on n'a pas de galon, hein, qui a été dessiné par François Bellec, et qui est très beau d'ailleurs, qui représente une ancre avec une plume qui la traverse, et, qui ressemble un peu à une voile d'ailleurs. C'est une plume blanche qui ressemble un petit peu à une voile. Je trouve qu'il est très, très beau, très réussi. Et puis, nous avons un autre privilège qui est ô combien appréciable, qui est celui de pouvoir, j'allais presque dire de devoir, embarquer à bord comme passager de l'État à bord des bateaux de la Marine nationale, presque au choix.
Quand vous voulez.
Oui, dans les conditions qui sont d'exercice normal du bateau. Je veux dire, c'est pas des croisières réservées. Non, on monte à bord parce que tel bateau fait telle mission. Et ça, c'est formidable parce qu'on voit travailler les navires, les hommes. C'est une découverte. C'est plus du cinéma, on est dans le vrai.
Et à part tous ces privilèges et ces objectifs, est-ce que vous êtes 20, m'avez-vous dit, est-ce que cela suffit, 20 seulement, est-ce que...
Oui, je crois qu'il ne faut pas être pléthorique. C'était une volonté de Jean-François dès le départ, il nous a consultés, les copains avec qui il a fondé le truc au départ. Hein. Il dit, bon, est-ce qu'on va monter à quoi? À 30, à 40, à 50? Il a dit, non, je pense qu'il faut mieux rester un petit nombre, mais un petit groupe, un petit équipage qui s'entend, qui se voit, qui, je ne vais pas dire qui travaille ensemble, mais on souhaite avoir des rencontres, former vraiment un groupe d'amis et unis à travers la mer et la marine. Au-delà de 20, ça devient très, très difficile à gérer. Et en dessous de 20, ça ne permet pas d'exister d'une manière visible.
Avez-vous des réunions fréquentes ?
Nous avons obligatoirement une réunion qui dure 2 ou 3 jours chaque année et qui s'appelle les Rencontres de la mer, et qui est organisée dans une grande ville portuaire française. Et en plus de cela, alors ça peut être une ville, ça peut être une île. Hein, l'année prochaine, il y a un projet comme ça. Il semblerait qu'on puisse aller passer 8 jours ensemble à l'île Maurice, ce qui serait formidable. Et ces rencontres de la mer nous permettent à la fois de rencontrer le public et d'expliquer pourquoi nous pensons qu'une littérature sur la mer est importante, et aussi de présenter un livre collectif que nous essayons de faire tous les ans. Chacun écrit sur un... On choisit un grand thème, la mer que nous aimons. Quelle est la mer que nous préférons? La mer, l'océan, etc. Et chacun écrit 8, 10, 13, 20 pages. C'est tout à fait libre là-dessus. Ça fait un ouvrage collectif. Et on essaye aussi de présenter ce livre dont les droits d'auteur vont à la Société Nationale de Sauvetage en Mer, la SNSM. Alors, en plus de ça, il y a des rencontres plus courte, plus brève, le temps d'un déjeuner, d'un drink, d'une signature ensemble, etc.
Avec la présence des chefs d'état-major, des autorités de la Royale.
Alors, on a le bonheur d'être fréquemment invité rue Royale par le chef d'état-major de la Marine. Et je dois dire que c'est toujours un déjeuner qui est... Il y en a plusieurs dans l'année. Et là, il n'y a pas besoin de battre le rappel. S'ils sont présents à Paris, les écrivains de Marine s'empressent de venir. Mmh. C'est toujours un vrai bonheur. Il y a une vraie affaire pour la Royale chez les vins en question. D'ailleurs, sinon...
Ils n'accepteraient
pas, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Oui. De même que le fait de ce droit de porter un uniforme, qui n'est pas une obligation, mais qui est un droit, moi je voudrais qu'elle soit plus entérinée encore. Hein. Bon, on s'aperçoit que ça se passe très bien. Ils sont plutôt joyeux de le mettre.
Même Madame Autissier ?
Oui, absolument, absolument. Elle a essayé l'autre jour, pour la première fois, parce qu'elle n'y croyait pas. Elle a essayé le petit tricorne, parce que je lui disais, tu vas être ravissante avec ce tricorne, mais non, ça ne me va pas, les chapeaux ne me vont pas. Et nous étions à table avec le chef d'état-major de la marine. Et alors, justement, Alain Audot de Naville a dit qu'on apporte immédiatement un tricorne pour qu'on fasse un essai. Elle se rendra compte. Isabelle a mis son tricorne et s'est trouvée à croquer avec, donc je pense qu'elle va mettre l'uniforme. En tout cas, elle mettra le tricorne.
Parmi les écrivains de marine, vous avez donc on disait tout à l'heure qu'il y avait plusieurs marins, donc le contre-amiral François Bellec, lui de toute façon il a habitué à porter la casquette.
Oui, lui il est très content de se mettre en civil.
Oui, c'est un petit peu l'inverse. Vous avez également Loïc Finaz, oui. Qui va quitter son commandement du La Touche-Fréville, une très belle frégate, et lui il est habitué de porter également cet uniforme avec ses 5 galons.
Oui, c'est un beau marin et c'est un bel écrivain.
Oui.
C'est quelqu'un qui écrit. Moi, je l'avais découvert, c'est très curieux, à l'Académie Goncourt, quand on a lu Échouage. J'avais essayé de le mettre sur une liste de sélection. Je ne pensais pas le retrouver d'une façon aussi proche un jour, mais c'est un vrai écrivain. Oui.
Et parmi les écrivains de Marine, vous avez un éditeur, qui est également écrivain, Olivier Frébourg.
Ah oui, il est très écrivain.
Oui, il est très écrivain, mais il est aussi éditeur, et c'est lui qui justement publie ce livre annuel. Donc il n'y a eu qu'un seul titre jusqu'à présent.
Deux titres.
Quels étaient-ils ?
Alors le premier, c'était Nos marins. Et le deuxième qui vient de sortir, c'était Nos océans, je crois, Nos mers, je ne sais plus le titre exact, parce qu'il y a une grande bande en bas où il y a marqué hommage à Jean-François Deniau, qui fait qu'on ne voit plus le titre du livre. Et c'est vrai que c'est un livre que nous offrons à la mémoire de Jean-François, parce que c'est lui qui souhaitait que ce livre existe. Donc c'est là où chacun a choisi une mer ou un océan dont il est familier et qu'il a envie de vanter, de chanter.
Donc vous êtes président de cette association depuis le 26 février 2007.
J'ai pas fait exprès, hein. Je veux dire, ça a été... il fallait quelqu'un, comme on dit. Bon. Donc ils ont décidé que ce serait moi pour une durée de 3 ans. Voilà. C'est lourd de succéder à Jean-François Deniau. C'est lourd, mais peut-être ça se justifiait par le fait que j'étais dans le bateau au départ... à côté du Pacha, hein, à côté de Jean-François, mais je n'étais pas le seul. Et peut-être aussi par le fait que j'aime ça, passionnément.
Bien, bah écoutez, je crois que je vais vous laisser à vos écritures.
Et à mes navigations.
Navigations. De toute manière, je crois que vous allez repartir pour votre maison de pêcheur, comme vous dites, dans la Manche, dans la presqu'île.
Oui, ce n'est qu'une maison de pêcheur.
Ce n'est qu'une maison de pêcheur. Et en face, il y a un petit bateau aussi.
Alors voilà, c'est sûr. oui, alors, le bateau ayant grandi, avant, il était en face. Il y a un petit port d'échouage, comme ça, juste, j'allais dire, sous mes fenêtres. Et je pouvais mettre mon bateau là. Mais ce bateau-là est... peut plus échouer, il est un peu trop gros pour ça. Donc il est à 30 minutes de voiture, mais c'est le plus beau trajet du monde, ces 30 minutes, quand je vais vers lui. Parce que j'ai avec ce bateau une histoire d'amour qui est violente.
Mais peut-être en auriez-vous une autre avec de la tôle, à Cherbourg, il y a bien des bâtiments aussi.
Ah oui, oui. Alors c'est un petit peu désolant que ce port, qui est un port militaire... Ah, il y a tous les ports à Cherbourg, port de pêche. Port de plaisance, port militaire, port commercial. De temps en temps, il y a même des bateaux hydrographiques qui viennent. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de mouvements de navires de la Royale, qu'on n'ait pas de gros bateaux qui viennent. Voilà. Ça se fera peut-être un jour.
Mais ce qui explique que finalement, votre titre d'écrivain de marine, c'est que vous êtes complètement entouré par la mer, pas seulement par l'encre,
ah oui,
avec
oui,
un jeu de mots.
Oui, c'est oui, les deux ancres, là et le. Mais je me, moi, je me, vous savez, quand j'étais tout petit, pour m'endormir, j'avais trouvé un truc. Je vivais loin de la mer, à côté de Paris, dans une banlieue de Paris, et je me remuais doucement dans mon lit en faisant C'était le bruit de la mer, la mer et du vent. Alors parfois, papa ou maman entraient dans la chambre et disaient « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Chut, je m'endors sur la mer. J'ai toujours passionnément... Mais c'est amniotique, hein, je veux dire, on est dans le ventre du bateau, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, comme on est dans le ventre de la maman. Il y a un sentiment de protection contre le remuement incroyable du monde extérieur. J'y pensais là, à bord de la Jeanne, les bateaux gris sont des bateaux sans hublot. Enfin, ils sont pas faits pour qu'on regarde, se mettre au balcon, qu'on regarde la mer. Et je me disais, je suis très, 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 très bien. Voilà. C'est de la tôle. On sent, on met la main dessus, on sent une vibration. Vous connaissez ça, une espèce de pulsation profonde, comme, je pense, le petit enfant sentait battre le cœur de sa mère ou sentait courir le sang dans les veines, les artères autour de lui. C'est jubilatoire, hein, d'être à bord d'un bateau. La nuit, à bord d'un bateau, c'est magique.
J'allais vous dire, vous sortez et vous allez sur les passes avant.
Oui, bien sûr.
Ou alors vous montez à la passerelle.
Surtout quand il y a des poissons volants, c'est phosphorescent. Alors la passerelle la nuit, c'est mythique, quoi. Le faux silence de la passerelle, les petits raclements de gorge. C'est-à-dire, on entend les officiers penser. Et c'est là où le bateau vit. Bon, maintenant, il y a un autre endroit mythique dans les bateaux modernes, c'est le central opération. Enfin, cette espèce de regroupement, que ce soit les frégates quand elles font de l'écoute ou de la recherche de sous-marins, cette espèce de c'est magique. C'est un arbre, on est dans un arbre de Noël là, tellement il y a des lumières partout.
Avec des lumières différentes, parce que quand vous parlez de la passerelle de la nuit, il faut bien préciser qu'il n'est pas de lumière,
non,
que c'est une lumière rouge.
Sinon, voilà. Sinon,
car dans les bâtiments, quand justement, comme il n'y a pas de hublot, à partir donc après les couleurs, puisque tout se passe avant et après les couleurs, on passe à la nuit, et donc la lumière s'éteint, plus exactement elle s'éteint.
Elle se change de tonalité.
La tonalité, elle devient rouge, ouais. Et on voit ces silhouettes.
C'est un rouge orangé
qui se profile.
Oui, comme on va revenir à l'idée que je disais, il paraît que le petit bébé pourrait à la rigueur voir des lumières fortes à travers le ventre de sa maman, le petit bébé qui est dans le ventre de la mère, et il les verrait un peu rouges, parce que à travers la peau, et dans le ventre du bateau, c'est la même couleur.
Donc je vois que finalement le marin est dans son élément.
Complètement.
Peut-être qu'il y soit. Merci Didier Decoing.
Merci à vous.